Donc je laisse la parole à Michel. C'est à partir de maintenant que j'ai 30 minutes.
Mais il te surveille. Il te surveille.
Bien, bonjour à tous. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que on a appris que pour Regard sur l'exil, j'avais fait quelques recherches pour répondre à des lycéens. Je m'attendais à certaines questions et que j'avais un petit peu passé la question sur les migrants, notamment la réponse à certaines rumeurs dont on va reparler. Et donc c'est à ce titre-là que Jean m'a contacté cette soirée. Je commencerai par une idée dont on a parlé, mais il me plaît d'y revenir, c'est celle qui consiste à être persuadé que notre terre, je veux parler de l'Hexagone, notre terre est une terre de migration. Si on peut remonter jusqu'aux Celtes qui peuplèrent notre région, parce que nos ancêtres ne sont pas les Gaulois c'est une insulte. Donc de ces Celtes-là, avec tous les passages qu'il y a eu sur cette terre, qui ont bien entendu laissé des gènes, si les Grecs sont venus dans cette ville qu'on appelle aujourd'hui Marseille, si les Romains qui ont vécu 500 ans ont forcément laissé des gènes, et d'autres, les invasions qu'on dit barbares, et notamment le peuple franc, sur lequel je vais m'apesantir un peu plus de 30 secondes, ce peuple franc venu de l'Est, il ne pouvait pas venir de l'Ouest, hein. L'Ouest c'était l'océan, et encore les bateaux n'étaient pas capables de les traverser, mais ce peuple venu de l'Est, qui s'est installé sur les terres romaines, et qui a vécu, nous a quand même donné le nom au pays que nous avons aujourd'hui. Nous portons donc le nom d'un peuple émigré. Je ne sais pas si on avait compris, l'ont vu, mais les Francs étaient des immigrés. Et lorsque j'entends parler de la France, fille aînée de l'Église, le premier roi qu'on dit chrétien est Clovis, c'était un Franc, fils d'immigrés. Alors je ne sais pas à cette époque-là combien de temps on était immigrés, parce que la loi du sol mettra 1050 ans pour exister, mais les premiers rois qui ont succédé, notamment à son quatrième fils Clotaire, qui fut l'arrière-grand-père d'un roi que tout le monde a entendu parler, parce qu'il avait mal mis sa culotte un jour, voilà, Dagobert. Donc tous ces gens-là sont quand même des enfants d'immigrés. Et puis, on ne va pas s'apesantir sur toutes les guerres et les passages qui sont venus, il y en a eu beaucoup, et tous, bien entendu, ont laissé quelques gènes qui traînent. Donc je me demande où est le gène français pur. En sachant aussi, dernier élément, que les frontières de la France n'ont pas été celles qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles ont fluctué, que l'Est, la Savoie, le comtat venaissin et autres comtés de Nice, si ça vous rappelle un peu d'histoire, ont eu les frontières qui ont navigué, et que donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient des émigrés sédentaires, puisque leurs parents étaient d'un autre pays que le leur, puisque la frontière avait bougé. Donc nous sommes à différents niveaux, mais je crois que nous sommes tous issus de la diversité.
C'est ça.
Heureusement. Voilà, c'était mon introduction. Alors, dans cette soirée, je désirerais d'abord tuer trois idées type ou trois rumeurs. La première, c'est la France qui reçoit le plus d'immigrés dans le monde. Alors, la France, c'est le petit carré rouge. En 2014, 64 000 811 immigrés. Et nous avons le Royaume-Uni, par exemple, 220 000, ce sont les chiffres de l'année dernière, hein, 220 000, l'Allemagne, 590 000, la Syrie, il y en a eu 100 000, l'Iran, 107 000, le Pakistan, 1 700 000 migrants dans l'année. D'accord ? Donc quand on dit que la France est le pays qui reçoit le plus de migrants dans le monde, vous aurez ce diagramme dans la tête. On peut passer au deuxième. Alors le deuxième, c'est en France, on est envahi par les migrants. Alors, dans le diagramme que je vous propose, c'est un diagramme sur la population de 2008, parce que je n'ai pas trouvé de recensement plus proche de nous au niveau de la population des migrants. Sur une population totale de 64 millions d'habitants en 2008, il y a 8 276 000 personnes étrangères, ce qui fait 55 millions de Français. Alors la première colonne, la bleue, ce sont les 55 millions de Français. La deuxième colonne, en rouge, ce sont les 8 millions d'étrangers. Et dans ce diagramme, il y a quatre colonnes. C'est-à-dire que dans la colonne 3, qui est là, tout le monde a la voix.
Non.
Dans la colonne 3, ce sont, alors toute proportion gardée bien entendu, puisque c'est l'ordinateur qui a calculé, ce sont les 64 811 étrangers qui sont rentrés en France l'année dernière. Donc nous sommes envahis. Et dans la colonne 4, ce sont les 30 000 réfugiés que l'on dit qui vont arriver sur 2 ans, on en reparlera après, les 30 000 réfugiés qui vont arriver en France. Voilà. Donc, deuxième idée, nous sommes envahis par rapport à cette population. On peut prendre la numéro 3. La troisième, c'est ils viennent pour toucher les allocs et ils sont plus payés que les SDF français. Alors, il y a bien entendu l'intox. Le document que je vous montre est une photo. C'est une photo que j'ai trouvée sur Metro News. Alors, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est une photo. Là en bas, il y a le logo de TV Liberté. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne sais pas avant. TV Liberté, avec dessous marqué source ministère de l'Intérieur. Et on voit, alors il y a quelqu'un qui a un panneau stop là-haut, je pense que c'est pour ça. Stop aux 340 euros par mois et aux 718 euros par mois, avec les deux allocations qu'un réfugié touche. Ce qui fait dans 1000 et quelques euros, le titre c'est « Aide financière aux migrants en France ». Cette photo est un montage. Alors si l'on regarde bien, il y a des gens avec des pneus. Là, un autre par terre. Je ne vois pas très bien ce que les migrants feraient avec des pneus quand ils partent chez eux.
Ils prennent un pneu pour voir.
Ensuite, les gens sont noirs. Les Syriens ne sont pas noirs. Ensuite, il y en a un qui a un poteau stop sur l'épaule. Il y en a un autre ici là, qui a un autre poteau sur l'épaule. Je ne vois pas non plus ce que les migrants feraient en arrachant les poteaux du code de la route sur le côté. Donc, je suppose que cette photo, c'est une photo d'une manif en Afrique, ou de gens qui se préparent à aller faire une manif, qui vont faire brûler des pneus peut-être, mais qui n'a absolument rien à voir avec les réfugiés syriens. Quant à savoir combien ils touchent. Alors, ils touchent quelque chose s'ils ont fait leur demande d'asile. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, ils touchent rien. S'ils l'ont fait, deux possibilités. S'ils sont hébergés en CADA, Il touche quatre centres d'accueil des demandeurs d'asile. Il touche 91 euros par mois par adulte. C'est-à-dire que dans une famille, s'il y a 5 enfants, il n'y a que le père et la mère qui touchent. 91 euros par adulte. La somme de 718 euros existe, c'est le maximum qui puisse être donné pour 6 personnes. S'ils ne sont pas hébergés, ils touchent 11,45 euros par jour et par adulte. Ce qui fait, si on fait la multiplication, pour un mois de 31 jours, 354,95 euros, qu'on peut arrondir pour un couple à 710 euros, qu'ils aient un, deux ou trois enfants, et ça pour tous les frais. S'ils ne sont pas hébergés, ils doivent se payer la nourriture, le logement, le chauffage, tout. Donc 710 euros. Voilà. Ça, ce sont les trois premières idées sur lesquelles je voulais qu'on s'arrête.
Et c'est quoi du coup les 340 euros ?
Alors, les 340 euros, ça s'appelle allocation temporaire d'attente.
Pas moi.
Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je ne les ai pas trouvés dans la documentation que j'ai recherchée.
C'est les 11 euros par jour. L'allocation temporaire d'attente, c'est ça.
Ah bon.
C'est 11 euros par jour par
personne. 340, moi j'avais trouvé. Oui, j'avais trouvé 354.
Parce qu'il y a des mois de transit.
Le document suivant que je vous présente, ce sont les pays, certains pays de migration. Bien sûr, moi je parle de la migration là, vers la France, vers l'Europe. Hein. Donc, on parle beaucoup des Syriens. Les Syriens, c'est là-haut le tout premier avec les carrés jaunes. Alors, il y a dans les chiffres, il y a une étape, c'est le premier trimestre 2015. C'est-à-dire qu'au-delà du premier trimestre 2015, les chiffres s'emballent. Donc, ce document parle de 2015. 9000 Syriens qui sont arrivés en Europe. Alors, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas quand même la plus grosse affluence.
En France ?
Non, pas 9000. Non, en Europe.
C'est pas 9000.
Donc, dans tous ces pays-là, il y a des pays africains, à part l'Afghanistan, qui est le quatrième. L'Afghanistan, il y en a 2500. Les autres, c'est des pays africains, l'Érythrée, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, etc. Pour un total de 15 000 de l'Afrique. Et les autres pays qui nous envoient, d'où partent les migrants, c'est 11 000. Donc, il n'y a pas que les Syriens qui rentrent. Pour le moment, on parle des Syriens, mais il n'y a pas que. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus difficile. C'est la situation en Syrie. Alors la situation en Syrie, ce qui était vrai hier est faux aujourd'hui. Donc ce que je vais vous raconter sera sûrement faux demain. Parce que ça évolue à une telle vitesse. Là, vous avez une carte sur laquelle j'ai représenté en gris les terres occupées par l'État islamiste en gris. J'ai retrouvé une carte sur la dépêche, c'est pas du tout la partie grisée, n'est pas du tout au même endroit. Et ce soir, j'en ai vu une autre, enfin, cet après-midi, j'en ai vu une autre, où l'État grisé s'approche de Damas à quelques encablures. Donc, même là, cette carte. Elle date d'à peu près une semaine. Alors, la situation en Syrie, elle a commencé à déraper le 15 mars 2011. C'est à la suite des printemps arabes que les Syriens ont voulu avoir leur printemps aussi. Sauf que ça ne s'est pas passé comme comme dans les autres pays. Bachar al-Assad, le chef d'État, a donné des armes contre les manifestants et ne s'est pas, n'est pas parti comme les autres. Donc il y a eu une opposition qui s'est créée. Alors cette opposition, elle est de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle le Conseil national syrien, qui est une espèce de gouvernement opposé à Bachar el-Assad, qui est en exil en Turquie. Et ce gouvernement a une branche armée qui s'appelle l'armée syrienne de Libre et qui se bat en Syrie. C'est au départ la grande opposition avec les armées de l'État de Bachar el-Assad. Et comme dans toute guerre, il y a des mouvements de troupes, les uns gagnent, les autres perdent, etc. Et puis, viennent se greffer dans cette armée syrienne libre, cette armée d'opposition, des intégristes musulmans qui, bien sûr, se sont mis à jouer le jeu de l'armée d'opposition parce que ça leur permettait de lutter contre l'armée de Bachar el-Assad. Mais très rapidement, cette armée islamique est restée sur les terres qu'ils avaient conquises. Donc vous voyez que je veux parler de ce qui s'appelle en réalité l'État islamique en Irak et au Levant, qu'on appelle E-I-I-L, ou alors État islamique, et ces quatre lettres, quand on les traduit en arabe, ça devient Daesh, qu'on écrit avec CH ou SH, on le voit de ces différentes écritures. Alors, Daesh, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi, met en place un État, donc il est parti d'Irak, parce qu'il a commencé en Irak, l'Irak étant au-dessous, là, il est passé en Irak, il est rentré en Syrie, et alors à la faveur donc, de la guerre entre les deux, et donc s'est installé petit à petit, et il y met, il instaure une hygiène, entre guillemets, une hygiène de vie que lui il appelle pure. Et avec comme capitale, ici, Raqqa. Alors Raqqa, actuellement, paraît-il, est un bruyère, c'est-à-dire que les islamistes ont creusé le sous-sol de galerie, qu'ils ont, paraît-il, miné, et ils encerclent la ville pour que la population ne s'échappe pas, ça leur sert de protection humaine, de bouclier humain. Voilà, et donc ce qui fait que les Syriens, ils étaient au nombre de 23 200 000, les Syriens se trouvent coincés entre l'armée de Bachar, l'armée de Daesh et l'armée d'opposition. Et sûrement que ça doit être, si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi, automatiquement, donc ils tombent sous la coupe de l'un ou de l'autre. Sur ces 23 millions, il y a 11 600 000 personnes déplacées. 11 600 000 déplacées. Donc à peu près 50% de la population. Sur ces 11 600 000, il y a 7 600 000 qui ont trouvé refuge dans le pays, ailleurs dans le pays. Et 4 millions qui ont franchi la frontière. Et qui sont allés dans les pays voisins, notamment la Jordanie, le Liban. Et un peu la Turquie. Donc, actuellement, nous avons en gros deux groupes de belligérants, les pro-Assad, avec la Russie, l'Iran chiite et le Hezbollah libanais. Et comme par hasard, là-dessus se greffe aussi une question religieuse, c'est qu'on va trouver du côté de Bachar el-Assad, les chiites, lui-même en est un, et comme par hasard de l'autre côté, c'est les sunnites. Et là-dedans, les occidentaux reprochent à ce groupe, et notamment à la Russie, de bombarder plus les opposants à Bachar el-Assad que l'armée de Daesh. Ce à quoi Bachar el-Assad répond que non. Et il répond que non, mais quand même, hein, il a un peu quelques liens, parce que après les attentats du 13 novembre, Bachar el-Assad a reçu des correspondants, des journalistes de Valeurs Actuelles. Il a reçu M. Yves de Cardrel et André Verkoff, qui étaient là-bas pour une interview, ça s'est trouvé à ce moment-là. Et Bachar el-Assad leur a dit trois choses que l'on peut retenir un peu. La France ne vaincra pas le terrorisme tant qu'elle sera liée au Qatar et à l'Arabie Saoudite. La Turquie soutient Daesh et vous envoie les migrants. Et attention, Poutine est le seul défenseur de la civilisation chrétienne sur lequel on peut s'appuyer. Donc, bon, il me semble qu'effectivement, ce dialogue-là permet de supposer que, bien qu'il soit opposé à Daesh, il l'est, mais peut-être un peu mollement. Bon, maintenant qu'il a perdu un avion, peut-être qu'il y a un peu plus. Mais bon, vous voyez, c'est pour ça aussi que ça change un petit peu tous les jours. Du côté des pros, des anti-Assad, nous avons donc bien sûr la France. La France qui demande impérativement le départ de Bachar el-Assad. Il y a les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, qui autorisent les avions français à stationner sur le territoire. Il y a l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Les États-Unis sont, moins exigeants sur le départ de Bachar el-Assad. Donc, ils soutiennent bien entendu l'opposition en exil. Ils bombardent Daesh. La France n'a pas commencé que là de bombarder Daesh. Elle avait bombardé il y a déjà plus d'un an, notamment en Irak. Et ils sont, comme par hasard, ils défendent les sunnites. Un mot maintenant sur... Donc ça c'est une situation actuelle. Vous voyez bien que si vous écoutez les infos, vous devez déjà l'apprendre plus que ce que je vous dis. Parce que les journalistes sont plus complets que ce que je peux l'être. Et puis en plus, ils sont attentifs aux changements qu'il y a chaque fois. Les migrants. Un mot sur les migrants. Le migrant syrien... En gros, c'est un peu différent du migrant traditionnel venu d'Afrique qui, lui, fuit la misère. Et les migrants africains sont, en gros, en pourcentage, plus masculins que féminins. Eux, ils partent parce que c'est la guerre. Et non pas parce qu'ils sont miséreux, même si quelquefois c'est proche. Donc pour eux, c'est forcément un drame. Parce que tout quitter, laisser sa famille, parce que quelquefois ils partent, c'est leur famille, du moins ça, les parents et les grands-parents, ils laissent leur famille, ils laissent leur vie derrière, ils laissent leur profession, ils laissent leurs souvenirs, ils laissent tout. Donc c'est pas évident quand même de partir. Les gens qui migrent, ils migrent pas la fleur aux dents. La politique européenne a fait que ils ne s'entendent pas trop. Il n'y a pas une politique vraiment unie en Europe sur les migrants. Ce qui fait que les passeurs vont jouer sur les possibilités dans le Moyen-Orient de passer. Alors on pense que quelquefois les passeurs, ce sont des gens qui des sous-fifres bas de gamme qui achètent un bateau à un pêcheur et puis qui engouffrent 500 personnes dedans. Non. Tel que ça apparaît, les passeurs, c'est une organisation excessivement hiérarchisée sur eux-mêmes. Monsieur Romain Herrero du Huffington Post, dans un article du 4 septembre 2015, écrit ceci: ce sont les passeurs qui déterminent quand, combien, comment et où les gens arrivent. Et ça fait un peu frémir quand on se dit que s'il y a 50 000 migrants qui arrivent par la Pologne, c'est qu'au départ, c'est une, c'est une structure là-bas au Moyen-Orient qui a dit ah, sur ces frontières-là, c'est un peu plus passoire, donc il faut les envoyer là, bon, et pas ailleurs. Il y a actuellement 8 accès pour avoir pour arriver à l'Europe, alors que auparavant, essentiellement, bon, je ne vais pas faire agrandir la carte, mais essentiellement, avant, c'était par l'Espagne, ça arrivait. Et ici, excusez-moi. Et ici, de Lampedusa, c'est-à-dire qu'on a tous parlé, tous entendu dire de Lampedusa. Lampedusa, c'est une ville italienne qui se trouve entre la Sicile et la Tunisie, à quelques encablures de la Tunisie. Donc, c'était ça. Voilà. Maintenant, les migrants, ils passent par l'ex-Yougoslavie. Il passe aussi par la Russie. Il y a même une voie qui traverse la Russie, qui monte là-haut, et qui arrive en Norvège. Et en Norvège, là-haut, ils sont plus ouverts aux migrants, et donc c'est plus facile une fois qu'ils sont rentrés.
C'est l'âne.
Oui ?
Oui, bonjour. Je m'appelle José Gomez. Je vous remercie pour l'état de la situation que vous avez faite. Je regrette néanmoins que vous n'ayez pas parlé du peuple kurde. C'est eux qui se battent actuellement pied à pied pour reconquérir ce que Daesh est en train de reculer.
C'est exact.
Il faut savoir que les Kurdes, ils ont été gazés par Saddam Hussein, ceux qui se battent au sol. Et nous, les Français et les Européens, on envoie des avions. C'est clair, mais il faut 20 tonnes de bombes pour tuer 3 personnes. Alors que les Kurdes, eux, ils gagnent pied à pied. C'est eux nos véritables alliés. Et je regrette que vous n'ayez pas parlé.
C'est exact, c'est exact. C'est incomplet. Sur la dernière carte que j'ai vue à la télé, là, sur la dernière carte, les Kurdes occupent tout le nord. Voilà. Tout le nord.
Est.
Est.
Nord-est.
Oui.
Le nord-est.
Le
nord-est.
Oui.
En fait, c'est eux qui, nous les Européens, on ne veut pas les envoyer tout au sol parce qu'on sait qu'on va être punis. Alors que c'est les Kurdes qui payent de leur vie.
Je vous remercie. Alors, je suis à combien là, 2 minutes, parce que je sais plus.
Juste par rapport à ça, dans cette salle même, ici, il y a 6 mois, on recevait des Kurdes. Non, c'était à Saint-Christophe. C'était à Saint-Christophe, on recevait des Kurdes qui nous avaient fait le bilan de ce qui se passait dans le Kurdistan, on va dire, réparti sur les 3 pays. Et c'était très intéressant, effectivement, cette conférence par les Kurdes elles-mêmes. Et on s'est retrouvé à 25, ce qui était un petit peu dommage. Bon, on a des limites, mais c'est vrai que là, on avait effectivement insisté sur le rôle des Kurdes dans ce qui se passait dans la zone à l'heure actuelle très, très trouble et très convoitée.
Alors, puisqu'il me reste plus que... c'est bon, tu peux le laisser. Puisqu'il me reste. Ah oui, non, c'est bon. Oui,
vas-y, dépasse 5 minutes. Oui.
Alors, j'en viens à pourquoi les 30 000 migrants, puisque souvent, c'est ce qui a fait un petit peu bouger les gens. On va recevoir 30 000 migrants en France. Alors, pourquoi ces 30 000 migrants? La loi Schengen, qui stipule que les frontières les plus éloignées des pays délimitent l'Europe et la non-Europe, à cause du traité de Dublin, stipule que lorsqu'un migrant est contrôlé dans un pays, il doit rester dans ce pays où il est contrôlé. Et donc, ce qui fait que la plupart, à part l'Italie, qui elle se trouve dans ce cas-là avec Lampedusa, les autres pays, ce sont des pays de moyenne influence européenne. C'est vrai que quand ils arrivent en Hongrie, en Slovénie ou en Pologne, Je veux dire, la France et l'Allemagne, elles ne se bougent pas trop. Ils se disent, bon, c'est leur affaire. Les gens arrivent là-bas, ils se débrouillent. Même si il y a, après le premier trimestre 2015, pas mal de bateaux quand même qui échouent avec un nombre très important de gens qui périssent. Mais le point de départ, enfin la mèche qui a tout fait exploser, c'est la mort du petit Eylan Kurdi, ce gamin qu'on a retrouvé sur les plages turques, noyé. Et donc là, on s'est dit, ben, il faut quand même se bouger un peu. Ça fait effectivement du monde qui meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Et donc, à partir de là, M. Donald Tusk, qui est président du Conseil de l'Europe, a déterminé que, dans un premier temps, l'Europe accueillerait 100 000 migrants. Puis ensuite, c'est passé à 140 000. Alors, pourquoi 140 000 quand il y a 3 millions qui sont partis et qui vont sûrement frapper à la porte de l'Europe? Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon. Surtout lorsque le père, qui est le seul rescapé de la famille de 4, a raconté un petit peu comment ça s'était passé, puisque cette famille, elle a émigré au début du conflit en Turquie, pour ensuite émigrer au Canada. Sauf que, parce qu'au Canada, il y a une sœur au père. Et la sœur au Canada a demandé une immigration légale pour sa famille. Sauf que venant de Turquie, le Canada, il a dit non. Et donc, comme la migration légale n'a pas pu se faire, bien, ils sont partis par bateau. Enfin, j'allais dire, ils n'ont pas eu de chance, oui. Parce qu'ils partaient vers l'île de Kos. Il y en a qui ont atteint l'île de Kos en jet ski. Donc, c'est pas à 300 km. Là, ils sont partis en bateau, le bateau qui a chaviré. Et donc, à cause de ça, les 140 000 migrants que l'Europe va prendre, il y en a 30 000 pour la France. Et donc, ce sont ces 30 000 qui posent problème. C'était la quatrième colonne, tout à l'heure, du diagramme qui indiquait qu'on allait être en bloc. Je passe maintenant à la partie un petit peu historique sur les migrations. Normalement, ça doit durer 10 minutes. Alors, nous avons... Attends, c'est tout à l'heure. Nous avons juste remonté simplement que jusqu'à 1850, parce que les historiens disent que depuis 650 jusqu'à 1850, il n'y a pas de migration. Il parle d'exode continu, mais pas de migration. La seule migration étant celle des Normands, pour les scientifiques. Hein. Donc, moi je suis parti au niveau de 1850, avec trois grandes périodes de migration. La première, c'est celle de la révolution industrielle, jusqu'à la guerre de 14. L'entre-deux-guerres et après 1945. Au niveau de la révolution industrielle, c'est une politique d'appel à l'étranger qui est mise en place par le gouvernement parce qu'il y a en France un déficit de main-d'œuvre, de soldats et un déficit démographique. Donc, je suppose, enfin, ce n'était pas marqué, mais je suppose dû à la guerre de 70. Voilà, et donc, ils font appel à une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, qui est pensé sur le territoire français pour un temps limité, dans l'espoir que lorsque ce sera, que la nécessité aura pris fin, ils vont retourner chez eux. Et donc nous avons des Italiens, des Belges, des Suisses qui arrivent à ce moment-là. Des migrants venant des colonies, des migrants juifs aussi. Au niveau de la guerre de 14-18, nous avons une main-d'œuvre aussi non qualifiée qui vient, avec des Belges, des Suisses, des Italiens, des Kabyles, des Maghrébins, des gens de l'Indochine. Nous avons, alors, le petit rectangle, c'est le même que tout à l'heure, c'est les 64 811 migrants qui sont arrivés dans l'année 2014. Que je mets à comparer, alors bien sûr, ce n'est pas du tout historique, puisque je mets à comparer avec des migrants du début du siècle, il y avait à ce moment-là 420 000 Italiens, 287 000 Belges, 105 000 Espagnols, 102 000 Allemands, 72 000 Suisses, 600 000 des colonies françaises, 35 000 Chinois.
Et les Portugais ?
Et les Italiens.
Alors les Portugais, ça va être
après. Après, après.
Ça va être après.
C'est la deuxième colonne.
Vous n'avez pas compris.
Voilà. Et donc, avec aussi des gens qui sont pas répertoriés là, des Tchécoslovaques, des Russes, des Arméniens, aussi des Italiens, des Espagnols.
On est 1 million, c'est la population la plus importante en France, il y a 1 million de Portugais.
Tout à fait, je vais en parler après.
Merci.
Entre les deux guerres, nous avons en France 2 800 000 étrangers, c'est-à-dire 5,9% de la population, c'est-à-dire à peu près la situation de 2014. Sur 18 ans, entre 1921 et 1939, sur l'entre-deux-guerres. Donc ces 2 800 000 sont des gens qui sont rentrés. Ça représente 160 000, un peu plus de 160 000 personnes qui rentrent en France par an. 160 000 à cette époque-là. Nous en sommes à 64 000. Hein? En gros, trois fois moins. Et ils ont naturalisé français durant ces 18 ans 1 million de personnes. Si on ramène les calculs, 1 million de personnes, ça représente un peu plus de 55 000 personnes par an naturalisées. Il y en a 64 000 qui rentrent en 2014. C'est-à-dire à cette époque-là, ils naturalisaient chaque année autant de migrants qui rentrent maintenant. Alors, les migrants pendant la guerre, ça c'est l'exode, 1939. Un quart de la population, c'est-à-dire 8 millions de personnes, ont migré vers le sud. Ce camembert représente la migration par rapport à la population totale de la France. C'est-à-dire qu'en réalité, il est faux, parce que comme ils sont partis du nord vers le sud, il aurait fallu mettre par rapport à la population du sud. Combien sont rentrés du nord vers le sud ? Ça doit avoisiner les 52%. À cela s'ajoutent les 2 millions de Parisiens intramuros qui ont quitté Paris dans l'année 1940. Alors c'était au mois de... ça c'est en mai. Paris c'est au mois de juin, je crois, ou de juillet. 2 millions sur 3 millions de personnes, il y en a 2 qui quittent Paris et qui donc va gonfler les 8 millions pour en faire 10. Sur 30, ça fait donc un tiers. Voilà. Après la guerre, nous avons une migration de regroupement familial avec notamment beaucoup d'ouvriers, soit agricoles, soit dans la maçonnerie, soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie, de gens qui sont venus. Les Portugais. Alors, nous avons. Alors, là aussi.
1960.
Le rouge, c'est toujours les 64 811 migrants de 2014. Ceux qui sont, il y en a beaucoup. Je rappelle que c'est le chiffre de 30 000 qui cause le problème. C'est-à-dire la moitié de ça qui cause le problème actuellement. Nous avons 600 000 Espagnols, 1,8 million d'Italiens. Moi, j'ai 580 000 Portugais, dans les chiffres. 5 000 Français d'Indochine, 42 000 Harkis, 800 000 rapatriés d'Algérie. Ceci à peu près jusqu'aux années 70. Bon, là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours le rapport entre les migrations qu'il y a eu au début du siècle et la migration actuelle. Comment c'est donc disproportionné. Quand on parle de disproportion, En 1962, nous avions 6,91% d'immigrés en France. Ça représente, ça représente 3 248 000. En 1968, ils sont 3 854 000 sur une population totale qui a augmenté de 3 millions, ce qui représente 7,65%. Alors 1% de plus, ça fait quand même 660 000 personnes. Hein. Et par rapport au pourcentage donc, de la population d'immigrés, les 8, voilà. Dans ce dernier diagramme, il y a trois colonnes. Alors, la première, c'est la population française en 2015, donc actuellement, celle de 66 238 189, je ne comprends pas pourquoi c'est 89, c'est la population française. Parce que ça change toutes les secondes. La colonne numéro 2, ce sont la population immigrée de 2014. 64 811. D'accord ? Et dans la colonne 3, c'est les 30 000 qui posent problème. J'ai pas réussi à en faire un camembert. L'ordinateur, il n'a pas voulu me prendre la coloration là, de la colonne 2 et 3. J'ai une dernière comparaison. Le rapport entre la colonne 1 et la colonne 2 est de 1 sur 859. Ce qui veut dire que dans un village comme Saint-Cyprien, qui a 880 habitants, ou Ozit, qui en a 870, l'invasion des 30 000, ça correspond à un immigré qui rentre dans le village. Je ne dis pas une famille, un immigré qui rentre dans le village. Ceci pour avoir donc toute proportion gardée, avoir quelques réponses. Je termine, j'en ai pour 2 minutes. Je voudrais que vous me disiez, c'est dans ma conclusion, 4 points, qui sont une liste de gens. Stopira, Piantoni, Rodzi, Budzinski, Djorkaeff, Kopa. D'accord, ce sont les membres de l'équipe de foot des années 60. Ensuite, Lloris, Kosiesny, Mangala, Ben Arfa, Diarra, Pogba, Sissoko, Matuidi, Griezmann, des noms bien français. Ce sont l'équipe de foot actuelle. Je vous ai donné 11 noms sur les 22. Ensuite, Guillaume Apollinaire. On essaie un écrivain bien français, bien de chez nous. était d'ascendance polonaise. Isabelle Adjani.
Pareil.
Ils viennent de chez nous.
Marie-Curie.
Germano-algérienne. Bon, tout le monde connaît Charles Davo, bien entendu.
Arménienne.
Robert Badinter.
Je ne sais pas.
D'origine d'ascendance polonaise. Josiane Basco. D'ascendance bosniaque. Alain Machoun. Franco Kabil. Georges Charpat. Ascendance polonaise. J'en ai 50 sur la liste. Mais je veux dire, il y a toute une liste de gens que l'on voit bien de chez nous, bien français, et qui heureusement ont apporté par leur migration, ont apporté des choses.
Sarkozy.
Grosso modo, 30% d'être d'origine française, étrangère. Mais ce qui est vachement important, c'est qu'il y en a qui sont français depuis plus longtemps que d'autres. Mais voilà, on est jeune français, on n'est plus français depuis plus longtemps.
C'est tout à fait.
Mais on sera tous français, quoi.
Tout à fait.
C'est tout, quoi.
Il y a... Je termine juste sur la dernière phrase. Par une interview d'un petit enfant en classe de maternelle, le journaliste lui dit... Alors, il y a beaucoup d'étrangers dans ton école ? Et le gamin répond : Ah non, il n'y a que des enfants.